Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlaico.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur ce thème de l'économie au temps du corona et je relaye les questions des internautes et des auditeurs, vos questions, afin de mieux comprendre comment l'économie évolue au fil du déconfinement. Alors ce week-end, le New York Times a publié une liste de noms, les noms de 1000 victimes de la Covid, inconnues ou pas, sur 100 000 décès survenus aux États-Unis. Et on commence à mesurer plus précisément la différence de réaction des pays face au virus et les conséquences sur la mortalité, François.
Oui, c'est vrai qu'il y a différents critères. Évidemment, il y a le nombre de morts qui est celui qui frappe le plus les esprits. Mais pour autant, il ne faut jamais oublier de le rapporter à la taille de la population. Et de ce point de vue, le Financial Times publie une série de chiffres avec un critère intéressant, c'est la surmortalité. C'est-à-dire la mortalité disons, à partir du 15 mars jusqu'à la mi-mai, comparé à la même période de l'an dernier, alors en faisant le pari que la surmortalité est due exclusivement à l'épidémie de Covid. Et quand on regarde ces chiffres, on voit que en France, le nombre de morts avait progressé justement 8 mai dernier de 33%. Un chiffre qui est évidemment significatif, hein, ça veut dire qu'il y a, sur cette période-là, il y a eu un tiers de plus de morts en France que d'habitude. Mais c'est un chiffre bien meilleur qu'au Royaume-Uni, qui lui enregistre un plus 67%, donc deux fois plus que nous, et c'est d'ailleurs la pire des performances des pays développés, meilleur aussi que celui de l'Italie, bien sûr, le pays le plus touché, enfin au moins le plus précocement, plus 55%, meilleur que celui de l'Espagne et des Pays-Bas, qui sont respectivement à 49 et 50% de surmortalité.
Alors là, on a parlé des pays qui ont fait pire que nous, en quelque sorte, mais il y a aussi des pays qui ont fait mieux en termes de mortalité.
Oui, bien sûr, il y en a beaucoup en Europe. C'est principalement l'Europe du Nord d'ailleurs. L'Allemagne, 7% seulement d'excès de mortalité. C'était vraiment un très bon résultat. Le Danemark, c'est du même ordre. L'Autriche, c'est 11% d'excès. Le Portugal, 14% d'excédent. Et il y a même eu des pays dans lesquels il n'y a pas eu de surmortalité. Zéro. C'est la Norvège et l'Islande. L'Islande qui est bien sûr un petit pays, 330 000 habitants seulement. La Norvège est grand géographiquement. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique qu'il a été peu touché parce que la densité de population est faible. Et il faut noter que les États-Unis, qui sont souvent pointés chez nous comme catastrophiques quant aux résultats, font en fait mieux que nous sur ce critère-là parce qu'ils n'ont, toujours à la date du 8 mai, qu'un excédent de 24% de morts, là où nous sommes à 33%.
Alors vous l'avez dit, ce sont globalement les pays du nord de l'Europe qui ont fait mieux que nous, avec quand même une exception notable qui est la Suède.
C'est vrai que c'est spectaculaire. La Suède se démarque de ses voisins du nord avec un taux qui est quasiment identique à celui de la France, 30% de surmortalité. Et c'est intéressant parce que la Suède est l'un des rares pays au monde qui a choisi une autre stratégie pour lutter contre l'épidémie. Elle n'a pas choisi le fameux confinement. Il y a peu de pays dans le monde qui ont fait ce choix-là, mais la Suède en est un. Et on voit donc qu'avec deux méthodes complètement opposées, le confinement en France, le non-confinement en Suède, eh bien les deux pays arrivent à peu près au même résultat quand on mesure ce critère de la surmortalité, c'est-à-dire en gros un excédent de décès d'un tiers environ par rapport à la période habituelle.
Alors la question fondamentale, François, bien évidemment, c'est de savoir si le confinement a été véritablement utile. Si on arrive au même résultat si on ne confine pas vraiment ce qu'a fait la Suède, donc est-ce que la question est valable? Est-ce qu'effectivement il fallait confiner?
Ces chiffres sont très troublants parce que ça semble montrer que le bénéfice du confinement il est très faible en termes de mortalité, alors qu'on peut supposer que les coûts économiques du confinement sont élevés par rapport à une situation où on ne ferme pas les commerces, etc. De fait, la Suède a moins ralenti son économie que nous. En fait, elle a donné des consignes d'éloignement aux citoyens, de distanciation physique, mais sans les imposer. Elle n'a pas imposé non plus de fermeture. Elle a protégé les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire principalement les personnes les plus âgées. Et puis, elle n'a jamais fermé les écoles pour les petits-enfants. justement pour ne pas provoquer une rupture dans l'organisation des foyers et donc dans l'économie. Alors, on pourrait se dire, bon, ben, c'est bien la preuve qu'on a fait une erreur. C'est pas si simple parce que, bon, comme toujours, hein, en matière sociologique ou en matière économique, il n'y a pas d'expérience complètement pure. Pour avoir une expérience complètement pure, il aurait fallu que les deux pays soient rigoureusement les mêmes. Or, il y a quand même des différences importantes entre la Suède et la France, d'abord dans la culture. C'est un pays où on ne se touche pas, hein, la Suède. Il n'y a pas de contact physique, au moins pas dans les contacts sociaux ordinaires. Les
C'est-à-dire,
contacts
on ne
privés,
fait pas la
c'est
bise comme en
absolument
France?
pas.
Ah oui.
On ne se serre pas davantage la main. C'est peut-être le tempérament nordique, hein, qui fait qu'on est plus retenu, mais en tout cas, les habitudes sociales sont très différentes. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, le lien à l'autorité, à la règle, est aussi très différent. Là, ce sont les pays protestants où on estime quand même que, justement, le respect des règles est beaucoup plus important que dans des pays du Sud comme les nôtres, où, bon, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Hein, et voir quelquefois ce qui est interdit, ben, on s'en arrange. Puis troisième grande différence, il y a beaucoup de ménages avec une seule personne. Donc peu de cohabitation. Et là aussi, on sait que, alors, en France, on est dans une situation intermédiaire, mais si on compare à l'Italie, c'est un pays où trois générations cohabitent fréquemment sous le même toit, et ça a été, semble-t-il, un des facteurs de contamination importante. D'ailleurs, dans les chiffres de surmortalité que je donnais, je les donnais au plan national, quand on regarde au plan régional, on voit que la région qui a été le plus touchée au monde, c'est Bergame, c'est-à-dire la partie de l'Italie du Nord qui a été à l'origine de l'épidémie, où la surmortalité a atteint 500%.
Mais c'est
Donc
incroyable.
on voit que c'est un véritable sinistre qu'a subi cette petite région d'Italie du Nord. Tout ça pour dire que les deux pays ne sont pas vraiment comparables et que on peut pas tirer une conclusion absolue. Enfin, à ceci près que la catastrophe promise à la Suède par les pays qui avaient choisi le confinement n'a pas eu lieu. Alors, au plan économique, les dommages causés en Suède sont encore difficiles à évaluer. Il semble quand même que le pays soit touché et qu'il subisse une récession importante parce que le pays est très tourné vers l'extérieur, dépend beaucoup des exportations et notamment vis-à-vis des voisins, le Danemark, l'Allemagne, etc., qui eux ont confiné, qui eux sont arrêtés. Donc, la Suède subit une récession, je dirais, par contagion, pour le coup, hein, même si elle-même n'a pas pris de mesures drastiques pour fermer les lieux d'accueil au public et les entreprises. Eh bien, via son commerce extérieur, elle subit un ralentissement qui fait qu'au total, la récession ne semble pas beaucoup plus légère que celle que nous avons connue. Mais on voit bien que cette expérience est très intéressante parce que elle nous apprendra des choses. Si jamais il y avait une deuxième vague ou bien une autre épidémie un jour, elle nous permettra probablement d'affiner notre stratégie de lutte contre le virus en fonction des expériences in vivo qui sont produites dans les différents pays avec les différentes cultures. Mais on aura toutes les données probablement dans quelques mois quand on sera justement à même d'apprécier l'impact économique réel et puis le bilan total en termes de mortalité, puisque malheureusement, il n'est pas achevé aujourd'hui.
Les questions maintenant. Première question d'un internaute. Un salarié en télétravail peut-il bénéficier de la prime transport?
En fait, cette prime, ce remboursement de 50% des frais de transport par l'employeur se base sur les coûts réellement engagés, c'est-à-dire à partir d'un justificatif. Donc, si vous avez un abonnement mensuel, c'est pas évident que vous puissiez produire un justificatif parce que certaines collectivités locales ont mis en place un remboursement, hein, déjà de l'abonnement que vous auriez payé. Donc, on ne va pas se faire rembourser deux fois. En revanche, pour un abonnement annuel qui fonctionne avec un prélèvement, là, vous ne pouvez pas l'interrompre, hein, et peut-être y aura-t-il un remboursement, mais ça sera plus compliqué. Du coup, dès lors que vous avez engagé des frais de transport et que vous pouvez les produire avec des justificatifs à votre employeur, vous êtes remboursé dans les conditions habituelles. Ça vaut aussi pour les tickets restaurants. Ça n'est pas parce que vous êtes chez vous que vous ne mangez pas,
Non, c'est
même si
sûr.
vous mangez dans des conditions différentes.
Et parfois
Et
plus
d'ailleurs,
cher.
les tickets. Oui, c'est ça. Et les tickets restaurants peuvent être utilisés dans des magasins qui ne sont pas des restaurants. Donc, de ce point de vue, le système ne change pas. Il y a d'autres frais techniques qui peuvent être remboursés par l'employeur pour le télétravail. C'est notamment ce qui touche à la communication. Alors, les abonnements Internet, c'est évidemment difficile de faire le départ entre le coût d'un abonnement spécifique pour le travail et puis le coût qu'on aurait eu à titre privé. Ça va probablement faire l'objet de négociations au niveau des branches ou dans les entreprises. C'est la même chose pour le matériel, parce que normalement, l'entreprise est tenue de fournir au salarié qui est en télétravail un matériel qui lui permet de le faire. Certaines des entreprises sont d'ailleurs désireuses de le faire parce que ce sont des ordinateurs qui sont protégés et qui rendent justement les intrusions informatiques moins faciles, moins fréquentes. Mais d'autres ont été prises au dépourvu, évidemment, et n'ont pas eu le temps d'organiser tout ça. Il y a fort à parier que des conventions spécifiques de télétravail se négocient dans les semaines, dans les mois qui viennent. Les grands syndicats s'y intéressent beaucoup, donc il va y avoir des négociations à ce sujet et probablement une codification de ce à quoi le salarié a droit et de ce à quoi il n'a pas droit.
Et oui, parce que les salariés qui se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail, par exemple, ont été obligés de chercher des ramettes de papier et des
Bien
cartouches
sûr.
d'encre. D'ailleurs, les cartouches d'encre étaient en rupture à peu près sur
Matière rare,
tout. Oui,
ouais.
matière très très rare, très très désirée. Donc, effectivement, tout ça, il va falloir le codifier. Et puis, une deuxième question. La semaine dernière, sur notre antenne, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, a annoncé qu'elle souhaitait un rétablissement de l'ISF. Une internaute nous fait remarquer que cet ISF avait été supprimé car il entraînait parfois une spoliation des personnes âgées ou des enfants dans certains héritages. Qu'est-ce qu'il faut en penser, François?
Au-delà des réflexions d'Esther Duflo, le sujet monte dans bon nombre de pays. Il est d'ailleurs un peu plus large que l'impôt sur le capital, comme l'ISF, c'est globalement la fiscalité des riches, des plus aisés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça monte, je dirais, à la marge pour des raisons budgétaires, parce que de toute façon, la fiscalité sur les riches, quand bien même vous la multipliez par deux, en France, on récupérerait moins de 10 milliards avec l'ISF, avec l'impôt sur les revenus du capital, et puis en augmentant l'impôt marginal sur les revenus. Donc 10 milliards, on voit que l'État a engagé à peu près 300 milliards pour lutter contre la crise sanitaire et économique. On n'est pas dans les bons ordres de grandeur. Enfin, je veux dire, évidemment, on ne va pas cracher sur 10 milliards, mais ça n'est pas avec ça qu'on peut rembourser une dette comme celle qui se profile. En fait, si on vit un sujet, c'est plus pour des raisons politiques ou sociales. Parce que, bien évidemment, la crise économique, elle va faire plus de victimes chez les pauvres, chez les ménages modestes, que chez les plus riches. C'est toujours comme ça en cas de récession. Et du coup, eh bien, il y a disons, un débat politique qui monte, un peu analogue à celui qui se produit après une guerre. On a augmenté fortement les taux marginaux après la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, ils atteignaient même 93%, c'est-à-dire l'imposition sur la fraction la plus élevée des revenus les plus riches. Aujourd'hui, on est à 37, vous voyez que c'est très différent. Quant aux dégâts de l'ISF, ils étaient bien réels. Difficile à mesurer parce que ça concerne une toute petite population de gens, mais c'est une population dont le pays a besoin, parce que c'est une population qui investit et dont il faut qu'elle reste au pays, si je puis dire, parce que justement, elle fait quand même tourner un peu la machine économique. Mais j'observe que finalement, les conséquences proprement économiques d'un impôt comme celui-là comptent assez peu dans le débat, parce que c'est pas un débat qui est spécifiquement économique ou spécifiquement budgétaire. J'allais dire, il n'est pas rationnel. C'est pas tout à fait vrai. Les considérations politiques ou sociales, elles sont très rationnelles, mais elles sont d'un autre ordre et en l'occurrence, elles viennent télescoper les considérations économiques ou budgétaires. En fait, en France, et spécialement en France, même si ces questions, encore une fois, se posent dans tous les pays, on préfère avoir un impôt non rationnel au plan économique sur les riches, mais donc avec des effets secondaires, mais qui satisfait notre besoin d'égalité et notre désir de faire
D'égalité,
payer les
quoi, de
riches.
oui,
Oui,
de
absolument.
cette volonté d'être égalitariste qui est extrêmement développée chez
Qui est
nous,
très
hein.
puissante chez nous, on l'a vu d'ailleurs apparaître au moment des Gilets jaunes il y a 18 mois, et puis on se prépare là à une nouvelle édition de ce débat. Parce que finalement, si on ne s'attachait que aux conditions économiques et budgétaires, c'est pas du tout le système fiscal actuel qu'on aurait. On aurait ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire un impôt proportionnel avec un taux unique qui frapperait, je sais pas, à 17 ou à 19% tous les revenus de tout le monde. monde, quel que soit leur niveau de vie. C'est par exemple le système qu'avait mis en place l'Estonie, hein, parce que c'est le plus efficace, c'est celui qui vous incite à travailler le plus, à vous enrichir davantage, mais socialement, il est évidemment très contestable, parce que on peut considérer qu'au-delà d'une certaine fraction, bah, tout l'argent que vous avez en supplément, il n'a pas la même nécessité que les 10 000 premiers euros par an, qui sont évidemment absolument indispensables pour les ménages modestes. En fait, c'est pour ça qu'on s'est orienté, particulièrement en Europe, mais dans la quasi-totalité des pays du monde, vers la progressivité, c'est-à-dire la montée des taux au fur et à mesure que la base, c'est-à-dire le montant des revenus, progresse.
Ouais, et donc avec un super taux, en quelque sorte, pour taxer les plus riches. Merci François.
Merci à vous.
Vous pouvez bien sûr retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur rtl.fr ainsi que sur toutes vos plateformes favorites.